Radio Kapi. Le journal, présenté par Patience Ngaloula.
À la une de cette édition d'information, la session ordinaire de l'examen d'État édition 2023-2024 débute ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Plus de 900 000 candidats seront répartis dans 2800 centres. Selon l'inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale, ces chiffres sont légèrement à la baisse par rapport à l'année passée où le nombre des candidats dépassait 1 million. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, demande la réévaluation urgente des mesures prises pour stabiliser les taux d'échange et relever les sociales des Congolais. Il a dit au cours du deuxième conseil de ministres du gouvernement souminois tenu le week-end. Il a à cette occasion souligné la nécessité de stabiliser la monnaie nationale pour préserver le pouvoir d'achat de la population. 63 km de routes périphériques autour de la ville-province de Kinshasa seront construits dans un délai de 2 ans et demi. À dater de samedi 22 juin, le chef de l'État a lancé samedi les travaux depuis Mitendi devant une foule immense. Nous parlons du déroulement de ces travaux avec Eric Ngilo Makombela, chef de projet à la CGT, Agence congolaise des travaux dans ce journal. Bonjour à tous. D'abord cette information, le président Tshisekedi est attendu ce lundi à N'Djamena au Tchad, annonce sa porte-parole Tina Salama, facilitateur dans les négociations entre les gouvernements et des opposants tchadiens en exil. Le président de la République démocratique du Congo sera en visite d'État. Examen d'État 2024, la session ordinaire commence aujourd'hui, c'est pour 4 jours. Cette année, on compte plus de 962 000 candidats inscrits et 2 800 centres. L'inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté appelle les candidats à être confiants. L'examen est tiré des matières vues dans leur cycle d'études. Odia Musungai est joint au téléphone par Babel Mpongo Masimango.
Les effectifs sont légèrement à la baisse par rapport à l'année passée. Nous sommes à plus ou moins à 962 000 candidats, alors que l'année passée, nous avions des inscrits de l'ordre de 1 100 000. Les filles, il y a augmentation. Nous sommes déjà à plus ou moins 47-48% des filles qui participent au pays. Nous avons plus de 2000 centres. Nous en avons également hors frontières. Vous avez à Angola, c'est-à-dire Luanda et Cabinda, Bujumbura, Tanzanie. Les mesures contre la fraude, contre la tricherie, nous avons renforcé. Il faudrait que les opérateurs commis à cette tâche-là respectent les instructions. Je demande aux candidats, aux élèves, de passer leurs épreuves dans la sérénité la plus totale. Pas de panique, il n'y a rien de mystérieux dans les épreuves de l'examen d'État. Il y a les matières qui sont contenues dans les programmes nationaux d'enseignement. Que les enfants s'appliquent comme toujours. Ne jetez pas un coup d'œil sur le cahier du thème du voisin. Vous n'avez pas la même épreuve nécessairement. Après l'épreuve, je demanderai également aux enfants de rentrer calmement, sereinement à la maison.
Au Nord Kivu, les autorités éducationnelles rassurent que toutes les dispositions et précautions ainsi que les garanties sécuritaires sont prises pour une bonne passation des épreuves de l'examen d'État en toute quiétude, même dans les zones sous occupation des rebelles, dont les territoires de Rutshuru. Selon les directeurs de la province éducationnelle Nord Kivu 1, certains centres ont été délocalisés vers là où il y a la présence des FRDC. On écoute M. Luc Boibeza au micro de Denise Lukeso.
Je peux vous rassurer que toutes les dispositions ont été prises. Ces enfants, rien ne les empêche de passer les épreuves dans la quiétude, d'autant plus que nous avons toutes les garanties de sécurité. Quant au centre de passation, nous avions pris toutes les précautions. Il y a certains centres qui ont été délocalisés vers le centre-ville ici. Et aussi d'autres centres sont localisés là où il y a le FARDC, donc sous le contrôle du gouvernement. À l'heure actuelle, il n'y a aucune inquiétude à ce niveau. Et ces enfants vont passer les examens sans difficulté. Les centres de Kichanga, pour des raisons sécuritaires, il y a des centres qui sont organisés ici à Mugunga, qui accueillent tous les enfants de Kichanga, de Masisi 2, Sake et consorts, sur place ici. Et donc, ces enfants vont aussi passer les examens dans les conditions voulues par l'État congolais. Nous leur plaçons encore un dernier mot d'encouragement. celui de travailler avec leur propre intelligence, ne pas s'appuyer sur la tricherie ou sur le phénomène labo, en sort, puisque l'avenir de ce pays leur appartient.
Ces responsables remercient le chef de l'État pour la prise en charge de tous les frais de participation des finalistes du Nord Kivu, signalant que 19 057 candidats, parmi lesquels 9 754 filles, sont attendus au Nord Kivu dans 64 centres organisés. J'ai annoncé au sommaire la nécessité de stabiliser la monnaie nationale, les francs congolais, pour préserver les pouvoirs d'achat de la population. C'est le premier point de la communication du président de la République vendredi 21 juin au cours du deuxième conseil des ministres du gouvernement souminois. Félix-Antoine Tshisekedi a notamment demandé urgemment la réévaluation des mesures prises pour stabiliser les taux d'échange et relever les sociales des Congolais. On écoute un extrait du compte-rendu de ce conseil des ministres lu par le ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, extrait proposé par Alain Hirung.
Le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement que parmi les missions du gouvernement actuel, il y a la matérialisation des engagements qu'il a pris devant la nation lors de son investiture pour son second mandat. Au nombre de ces engagements figurent la protection et les renforcements du pouvoir d'achat de nos concitoyens, mise à mal actuellement par la situation qui prévaut sur le marché d'échange. En effet, notre économie est fortement dollarisée. Le comportement du franc congolais face au dollar américain a un impact immédiat sur le panier de la ménagère congolaise. Face à cette situation, le président de la République a demandé à la première ministre, aux membres du gouvernement en charge des questions économiques et financières, ainsi qu'à la gouverneure de la Banque centrale du Congo, en collaboration avec son cabinet, de procéder urgemment à la réévaluation des mesures prises le 17 juillet 2023 pour stabiliser les taux de change, en y ajoutant, si nécessaire, des mesures supplémentaires pour enrayer cette spirale négative afin que le social des Congolais soit relevé.
Pendant ce temps, la paie des fonctionnaires de l'État de la République démocratique du Congo sera désormais régulière. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde, dit avoir pris des mesures fermes pour garantir que tous les fonctionnaires reçoivent leur salaire avant les 28 de chaque mois. Cette décision est le fruit d'une directive émise lors d'une réunion présidée vendredi dernier par Yannick Issassi, le président intérimaire du comité de suivi de la paie, Michel Kifindangoy.
Au cours de la réunion de vendredi à Kinshasa, le président intérimaire du comité de suivi de la paie présente aux responsables des principales banques du budget de la fonction publique des FARDC et du CECOPE cette nouvelle politique salariale. Yannick Issassi.
Nous avons été instruits par le ministre des Finances pour faire un état d'avancement des opérations de la paie du mois de juin. L'idée, c'était d'évaluer un peu l'évolution de ces opérations-là. Je peux vous dire que on est sorti très satisfait de cette réunion.
Yannick Issassi affirme que les salaires seront désormais versés le 25 du mois.
Comme l'avait souhaité le gouvernement, la semaine prochaine, la paie va se clôturer. Aujourd'hui, pratiquement tous les opérateurs de paie ont été approvisionnés en fonds et le processus s'est fait graduellement. Mais on s'est mis d'accord avec eux pour que la clôture de la paie s'efface au plus tard le 28.
Cette nouvelle mesure met ainsi fin à des semaines d'incertitude et d'espérance. Spéculation parmi les fonctionnaires. Yannick Issassi annonce une vérification ce mardi dans différentes banques de la capitale pour s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre de cette mesure qui traduit l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie de ses employés.
Inauguration samedi à Matadi, au Congo central, du guichet unique des créations d'entreprises antenne de Matadi. Cette cérémonie de remise du bâtiment devant abriter ses services a été présidée par la ministre provinciale de la Justice, représentant les gouverneurs des provinces du Congo central en présence de la représentante pays de la Banque mondiale. L'opérationnalisation, j'y arrive, de l'antenne du guichet unique de Matadi est l'aboutissement de la collaboration entre la province du Congo central et les projets d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises avec le financement de la Banque mondiale. Selon Amissi Eradi, directeur général du guichet unique des créations d'entreprises, ce service vient faciliter la formalisation et la création de nouvelles entreprises dans la province. Les points avec Nana Plurich Mambo.
La mise en place de ces guichets uniques de création d'entreprises est un ouf de soulagement pour les entrepreneurs du Congo central qui se débattaient pour créer et formaliser leurs entreprises. Amissi Eradi, directeur général du guichet unique, parle de la mission de ces services de l'État.
Et ce guichet unique a comme mission essentielle de pouvoir faciliter le processus de création d'entreprises dans notre pays. Quelqu'un qui veut créer sa société, quelle que soit la taille de celle-ci, il n'a qu'à payer 110 dollars. Et si c'est un établissement, il n'a qu'à payer 40 dollars.
Le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM PME, à travers lesquelles la Banque mondiale a financé l'opérationnalisation de ces guichets uniques, appelle les entrepreneurs à s'approprier ses services. Alexis Mangala.
Mon souhait le plus ardent est que cette antenne du guichet unique de création d'entreprise soit et demeure au cœur de toutes les activités d'entrepreneuriat à Matadi et dans toute la province du Congo central.
Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Politique, désignation du porte-parole de l'opposition, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo et Adolphe Muzito, bientôt dans la course. Leurs partis d'opposition font déjà un bloc commun pour désigner un chef de file de l'opposition congolaise. Après la lettre de Moïse Katumbi, chef d'ensemble pour la République, adressée aux autres opposants, LGD, Matata et Nouvel Élan, des Muzito soutiennent la démarche de désignation d'un porte-parole de l'opposition. Cependant, les idées de Martin Fayoulou et l'envol de Denis Essanga qui n'ont pas de députés au Parlement s'oppose à une telle démarche. Michel Kifindangoy.
Après la rédaction de la proposition du règlement intérieur de l'opposition, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi contacte par la suite les autres opposants, mais la réponse de l'ECID de Martin Fayoulou est catégorique. Il n'est pas question de légitimer les institutions issues d'un simulacre d'élection. L'envol de Denis Essanga s'est dit aussi non concerné par la démarche. Rodrigue Ramazani, porte-parole de Envol.
Nous ne pouvons pas considérer que la désignation d'un porte-parole de l'opposition participe à l'exercice démocratique. Elle contribue, au contraire, à accompagner un pouvoir issu d'un braquage électoral.
Cependant, leadership et gouvernance pour le développement de Matata Ponyo soutient la démarche d'ensemble pour la République en vue de renforcer l'opposition en RDC. Une position partagée aussi par Nouvel Élan de Adolphe Muzito. Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général.
En tant que républicain et respectueux des textes, nous avions estimé qu'il fallait s'organiser pour harmoniser les vues par rapport à cette structure. C'est ce que nous venons de faire.
Ensemble, LGD et Nouvel Élan envisagent donc saisir dans les jours à venir le président de l'Assemblée nationale en vue de la désignation du porte-parole de l'opposition.
Et puis, en séjour à Goma, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC a visité samedi les troupes onusiennes déployées dans les Niragongo et à Goma dans le cadre de l'opération Springbok. Pour Madame Bintou Keïta, cette mission consiste à évaluer les travaux que font les casques bleus sur les théâtres des opérations, mais également leur apporter sa solidarité dans le cadre de cette synergie entre la force et la composante civile de la mission. Bintou Keïta, au micro des Aubin Moukoni.
C'était extrêmement important de faire cette visite puisque depuis le début de la mise en place de Operation Springbok, qui est bien connue maintenant, nous avons eu Operation Springbok numéro 1, numéro 2 et nous nous préparons pour Operation Springbok numéro 3, basé sur les leçons que nous avons tirées des précédentes opérations. Et il se trouve qu'au moment où ça s'était mis en place, je n'ai pas eu l'opportunité de venir à Goma et dans cette zone pour montrer mon appréciation du travail qui est fait par nos troupes et aussi de montrer ma solidarité et d'exprimer les besoins que j'ai pour que la force et nous, la composante civile de la mission, nous comprenions que nous devons travailler ensemble pour renforcer la compréhension par la population et par les autorités que nous soutenons de la qualité du travail que nous faisons. Parce que nous avons un mandat qui continue. Nous sommes certes désengagés du Sud Kivu, mais nous avons encore un mandat à mettre en œuvre au Nord Kivu et en Ituri.
En Ituri, des milliers de déplacés des sites des télégares et des Mbala qui ont bénéficié des abris vivent actuellement dans des conditions décentes dans leur milieu de refuge. Selon leurs propos, ils passaient la nuit sous des tentes vétustes exposant les occupants aux intempéries. Ils ont exprimé leur reconnaissance à la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés lors de sa visite cette semaine dans ces sites. Ils demandent aux humanitaires d'étendre ces projets de relocalisation à tous les déplacés qui n'espèrent plus rentrer dans leur village suite à la persistance de l'insécurité. Isaac Remoyope.
Environ 390 familles de déplacés des sites de Téléga ont été ciblées pour la première phase des relocalisations sur environ 1300 ménages installés sur place. Les ACER a remis à chaque ménage des tôles et une somme d'argent pour la construction des abris pour contenir toute la famille. Les bénéficiaires qui s'entassaient dans des tentes exiguës avec les enfants et tous les articles ménagers s'en réjouissent. Selon eux, cette action a permis d'améliorer sensiblement leurs conditions de vie. Le président du site, Ndjabou Delonga Crisante.
Les gens vivaient comme des animaux car on a vu des maisons construites à 2 chambres, à 3 chambres, séparer les enfants. Nous, les bénéficiaires, nous avons beaucoup apprécié car on avait déjà des espoirs à la vie.
Environ 950 autres familles dont les bâches qui servaient d'abri sont déchirées, se disent désespérées de bénéficier de ces projets. La représentante d'IACER en RDC a rassuré ses déplacés que ces projets de relocalisation qui s'inscrivent dans le cadre des solutions durables va se poursuivre malgré les moyens limités. Pour rappel, plus de 650 abris sont déjà construits pour les déplacer par cette agence des Nations Unies dans cette province qui compte plus d'un million de personnes en déplacement. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale. Au Niger, un groupe politico-militaire enlève les préfets débilement et exige la libération de l'ex-président Bazoum, alors que la junte nigérienne avait confirmé l'enlèvement vendredi 21 juin du préfet débilement et de sa délégation. Cette même attaque a été revendiquée samedi 22 juin par les Fronts patriotiques pour la justice. Ces groupes politico-militaires, dont c'est la première action connue, diffèrent du Front patriotique pour la libération qui a saboté dimanche 16 juin un pipeline acheminant du pétrole brut vers le Bénin. Cependant, tous deux ont la même demande, la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum.
L'invité.
63 km de routes périphériques autour de la ville province de Kinshasa seront construits dans un délai de 2 ans et demi à dater de samedi 22 juin. Le chef de l'État a lancé samedi les travaux depuis Mitendi devant une foule immense. Nous parlons du déroulement de ces travaux avec Eric Ngilo Makombela, chef de projet à l'ACGT, Agence congolaise des grands travaux. Il s'entretient avec Billy Ivan Lutumba.
Eric Ngilo Makombela, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, le chef de l'État lance les travaux de construction de rocade. En quoi ça consiste?
Les travaux de rocade consistent à développer une route périphérique sur 360 degrés, donc sur tout le contour de la ville de Kinshasa. Et les rocades sont les sous-projets de ce grand projet. Et il y en a 4, donc les rocades sud et nord, chaque fois sud-est, sud-ouest, nord-est et nord-ouest.
Et d'où partiront ces routes pour connecter la ville de Kinshasa?
Alors aujourd'hui, nous sommes présents ici parce que le chef de l'État, son Excellence Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo, lance les travaux en ce qui concerne les rocades sud, donc la rocade sud-ouest et sud-est. La rocade sud-ouest part exactement de Mbudi terminus, prend l'Outendele, passe par Ngombi, par Ngoudiabaka et ressort ici à Mitendi où nous sommes aujourd'hui pour l'événement. Et la rocade sud-est partira de ce point toujours, ici à Mitendi, va vers l'aéroport, mais en passant par Kimwenza et par Njili Brasseri. Voilà les deux rocades sud.
Et qu'en est-il de la partie nord? Parce qu'on n'avait parlé que du sud.
La partie nord va venir tout à fait rapidement après la finalisation de la partie sud, parce que la partie nord va maintenant embrancher les deux sud de manière à faire une boucle complète. La partie nord-est va prendre l'aéroport, parce que c'est le point de sortie de la sud-est, va aller passer dans les marécages et pas sur Lumumba. Ça donne une alternative sur Lumumba. Nous passons dans les marécages du fleuve jusqu'au niveau de la cité du fleuve et nous rentrons dans la ville à travers GB et nous venons ressortir au niveau du rond-point Safrikas. Et tout cela en viaduc, donc en surélevé. Ce n'est pas au sol. Donc ça permet à ce qu'il y ait une fluidité des trafics au-dessus sans gêne. Et à partir de ça, nous avons aussi la partie nord-ouest qui va partir des Safrikas et qui va aller descendre, revenir sur Ngoudiabaka en longeant le fleuve, donc en ne prenant pas tourisme, en longeant le fleuve, donc il sera au-dessus, au niveau du fleuve, et ressortir de ce côté-là, ça permet une fluidité. Et à la fin, nous avons un 360 degrés, boucle complète sur la ville de Kinshasa.
Et tout cela, c'est combien de kilomètres? Et les fonds sont déjà disponibles pour exécuter ces travaux?
Alors, la totalité des rocades donne un kilométrage de 110. Les suds donnent un kilométrage de 63. Et donc, les fonds, concernant les fonds, nous le savons tous, le chef de l'État, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, a revisité il n'y a pas longtemps le programme sino-congolais. Et aujourd'hui, nous avons un budget disponible grâce à cette revisitation de près de 7 milliards, ce qui est beaucoup d'argent dans les infrastructures. Et donc aujourd'hui, nous pouvons être tranquilles et tranquilliser toute la population congolaise. Nous avons assez de moyens pour finaliser ces travaux dans le délai de 2 ans et demi qui sont fixés.
Toutes ces routes-là vont passer par des endroits où habitent certaines populations. Qu'en est-il?
Alors, naturellement, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Le projet d'infrastructure, il est un grand projet structurant avec 2x2 voies, donc sur une emprise de 20 mètres, alors qu'aujourd'hui, nous avons des voies sur emprise de 7 mètres, donc nous avons beaucoup d'espace à exproprier. Et donc, nous avons une commission qui est mise en place pour identifier tous les riverains qui sont impactés par le projet, les identifier et aussi les indemniser à juste titre, de manière à ce que le projet ne les appauvrisse pas, mais bien au contraire, qu'ils en profitent, comme tous les Congolais et tous les Kinois en particulier, de ce projet qui reste un projet héritage du chef de l'État.
Et à combien évaluer tous les coûts de ces travaux pour du moins la partie sud-est et sud-ouest?
Alors la partie sud-est, dans un coût global, avec les expropriations compris, avec les terrassements, la gestion des érosions, nous parlons d'un ordre de 240 millions de dollars.
Et ça va prendre combien de temps?
Il est prévu en globalité un délai, une durée de travaux de l'ordre de 30 mois. 30 mois qui représentent à peu près 2 ans et demi. Donc ce n'est plus un projet qui est projeté, mais plutôt des travaux qui commencent aujourd'hui, après le coup de tête que le chef de l'État va faire aujourd'hui à travers l'engin d'exécution de travaux.
Eric Ngilo Makombela, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal, mis en onde par Billy Landry Betou, supervision et coordination Alain Rung Mouchinj, Patience Ngalula Banangé, vous l'a présenté. Merci à vous tous de l'avoir suivi.